Bienvenue dans Net Zéro, le podcast de Climatico qui, chaque semaine, vous propose le décryptage d'un concept afin de mieux comprendre comment arriver à l'objectif zéro émission nette. C'est l'objectif que préconisent les scientifiques pour enrayer le changement climatique. Nous vous parlerons aussi de biodiversité, parce que la protection du vivant est intimement liée à l'enjeu du climat. Si l'on prête aux Égyptiens et aux Romains la découverte d'un liant de construction extrêmement efficace, il faut attendre le 19e siècle pour que le ciment moderne et sa composition soient stabilisés. C'est à un inventeur britannique originaire de Leeds, Joseph Apstein, que l'on doit le premier brevet de ciment qu'il déposa en octobre 1824, le fameux ciment Portland. Depuis, le ciment a conquis nos villes et nos campagnes, notamment parce qu'il est le principal constituant du béton. Aussi, lorsque l'on parle de béton vert, c'est principalement de ciment qu'il est question, puisqu'à lui seul, le ciment est responsable de plus de 7% des émissions mondiales de CO2. En effet, lors de la création du ciment, on cuit ensemble du calcaire et de l'argile, ce qui libère le CO2 qui était jusqu'à présent lié au calcium. En somme, fabriquer du ciment, c'est faire l'inverse de ce que fait la nature, selon la formule de Laurent Isoré, directeur délégué de l'Association technique de l'industrie des liants hydrauliques. Au niveau français, on estime que la filière cimentière est responsable de près de 3% de l'ensemble de nos émissions. Il est donc urgent de repenser la fabrication, la composition et la production du ciment. Et pour revenir sur cet enjeu fondamental du secteur du bâtiment, Climatico a le plaisir de recevoir Jean-Michel Torrenti, ingénieur à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Alors Jean-Michel Torrenti, quelles sont les principales pistes pour diminuer l'empreinte carbone du ciment ?
Les pistes pour diminuer l'impact carbone du ciment, il y en a plusieurs. Les premières, c'est sur le process de fabrication lui-même du ciment, puisqu'en fait, on chauffe dans un four un mélange de calcaire et d'argile. Et pour chauffer, on utilise des combustibles. Et par exemple, si on utilise des combustibles de la biomasse, par exemple du bois qui n'est pas recyclable, on va pouvoir finalement avoir un matériau renouvelable. Et donc, on va diminuer le poids carbone lié à la combustion pour chauffer le four. Parce que si on utilise, par exemple, du fioul, on a du CO2 émis par la combustion. Donc ça, c'est la première piste. Il y a aussi des pistes pour diminuer la température dans le four. Donc à ce moment-là, on brûlerait moins de combustible. Et là, il est prévu que sur l'aspect biomasse, d'arriver pratiquement à 50% de ce qui est brûlé dans les cimenteries qui viennent de cette source-là.
Alors le principal constituant du ciment, c'est le clinker, ce mélange de calcaire et d'argile qui est calciné puisque chauffé à de très hautes températures, on est à plus de 1400 degrés. Et réduire la teneur en clinker du ciment est un enjeu principal pour rendre ce dernier plus vert, Jean-Michel Torrenti.
Alors, effectivement, la deuxième piste, c'est de substituer une partie du clinker, puisque c'est la fabrication du clinker qui émet beaucoup de CO2, notamment quand on chauffe le calcaire, c'est la chimie, ça émet du CO2, et ça, on ne peut rien y faire. Et donc, un moyen d'améliorer le bilan carbone des ciments, c'est de remplacer une partie de ce clinker par ce qu'on appelle des additions, et qui sont généralement, en plus, des déchets ou des coproduits d'autres process.
Comme par exemple
Le laitier, qui est un des produits les plus couramment utilisés, ça vient de la fabrication de l'acier. Mais on ne va pas gagner énormément parce que le laitier, il est déjà utilisé à 80% dans les ciments. Donc, même si on monte à 100%, on va gagner un petit peu. Mais voilà, donc ça, c'est un aspect intéressant. Il y a les cendres volantes qui sont récupérées dans les fours de cimenterie, de centrales thermiques pour la production d'électricité. Mais par exemple, en France, on en a très peu des centrales thermiques et a priori, on va les arrêter. Et ça sera vraisemblablement le cas dans d'autres pays aussi en Europe. Donc les cendres volantes, au bout d'un moment, on n'en aura presque plus. Il y a le métakaolin, qui est un type d'argile calcinée, mais pendant un temps très court pour le rendre réactif. Mais là, la production, elle n'est pas très importante.
Et donc, ce serait quoi les grandes pistes ?
Les grandes pistes sur les additions, c'est d'utiliser des argiles calcinées, donc d'arriver à activer une argile classique, pas de la kaolinite qui permet d'obtenir le métakaolin. Mais n'importe quelle argile, par exemple là dans le Grand Paris, on a beaucoup d'argiles qui sont extraites des chantiers, donc si on pouvait les utiliser, on en a énormément, et là il y en a partout dans le monde en grande quantité. Donc la piste, c'est d'utiliser ces argiles calcinées et aussi de la poudre de calcaire, parce que du calcaire, c'est pareil, il y en a beaucoup partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de recherches actuellement là-dessus et on peut espérer que ça soit une piste très intéressante dans les années à venir.
Donc, on le comprend, il y a beaucoup de recherches en cours aujourd'hui. Et il y a aussi ce côté où il existe plusieurs formes de béton. Et est-ce qu'une grande partie du travail ne reposerait pas finalement sur le choix de ce béton? Est-ce qu'on est toujours obligé de chercher le meilleur béton et d'utiliser celui-ci partout, tout le temps?
Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses hein, sur le béton. Il faut absolument optimiser la formule de béton par rapport à l'usage. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire un super béton si on n'en a pas besoin. Il faut vraiment prendre le bon béton là où on en a besoin. Ça, c'est une première chose.
Et sur le très long terme, on nous dit que le béton capte du carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie? Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, cette captation du carbone par le béton?
Il y a effectivement un aspect carbonatation, c'est-à-dire que le béton, comme en fait, pour la fabrication du ciment, on passe par du calcaire qu'on chauffe et qui émet du CO2. À très long terme, le béton, il va repomper ce CO2 de l'air et se recarbonater pour revenir à la forme initiale qui était le calcaire. Mais c'est un processus très très lent, mais quand même dont les effets sont mesurables.
Et ça représente quelle proportion, justement?
On estime que, alors suivant les études, c'est entre 30 et 50% du CO2 qui a été émis depuis qu'on fait des objets, des immeubles, des ponts en béton, qui a déjà été repris par carbonatation naturelle. Mais là, dans le projet national Fast Carb, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accélérer ce processus en utilisant des granulats recyclés.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de ces granulés?
Alors, l'intérêt, c'est que d'abord, on favorise une économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va réutiliser ces granulats ensuite pour refaire des bétons, qu'on va stocker un peu de CO2 et que les granulats, ils ont des caractéristiques qui sont améliorées et qui permettent d'augmenter en fait leur usage pour refaire des bétons. Donc, dans le projet Fast Carb, on a actuellement deux démonstrateurs industriels et qui vont nous permettre de fabriquer des granulats recarbonatés, de fabriquer des bétons à partir de ces granulats, de fabriquer des objets à partir de ces formules de béton et de vérifier que le comportement mécanique, la durabilité de ces bétons et de ces objets est semblable à un béton classique. On regarde aussi, bien sûr, les aspects analyse de cycle de vie et d'économie des procédés, parce qu'il ne faut pas que, par rapport au CO2 qu'on va stocker, on en dépense davantage dans les procédés, par exemple par des transports sur des longues distances des matières. Et puis que ça coûte trop cher et que donc de toute façon ça ne soit pas viable. Donc c'est un procédé qui à lui tout seul ne va pas permettre d'atteindre les objectifs qui sont visés, c'est-à-dire d'ici une vingtaine d'années diviser presque par deux le poids carbone des bétons et en 2050 d'atteindre la neutralité carbone. Mais ça s'additionne à d'autres pistes dont on a parlé avant, comme l'utilisation d'additions. Et par exemple, vis-à-vis de la nouvelle réglementation thermique et environnementale, ça va permettre d'avoir des bétons qui auront des poids carbone un peu réduit et donc d'améliorer les performances globales des bâtiments avec lesquels on va les construire.
Merci Jean-Michel Torrenti d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chers auditeurs, pour prolonger ce podcast, je vous invite à aller lire sur le site de Climatico l'article de Marine Godelier à la recherche du béton vraiment vert, que nous remercions d'ailleurs chaleureusement pour cette interview, ainsi que l'article de Dominique Pialot à Châtenay-Malabry, le béton recarbonaté sort du labo. Et par ailleurs, il existe aussi des solutions qui consistent à remplacer complètement le ciment lors de la fabrication du béton, mais de cela nous vous en parlerons dans un prochain épisode, alors restez à l'écoute.